Bonjour et bienvenue au premier épisode du balado présenté par le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, alias Le Gros Bec. Aujourd'hui, pour le premier épisode, vous êtes en compagnie de Chloé Lacasse, chargée de projet au Gros Bec, donc moi-même, et Emmanuel Laplante, directeur général, ainsi que Sandrine Delaunier, directrice adjointe. Donc, pour ce premier épisode, nous allons vous parler plus précisément là, du Gros Bec et de certains de nos projets. Donc, sans plus tarder, allons-y maintenant. Donc, bonjour à vous deux!
Bonjour. Salut!
Pour commencer, je pense que ce serait intéressant là, pour les auditeurs d'apprendre un peu plus à vous connaître, là, de savoir un peu combien de temps, de ça fait combien de temps là, que vous êtes au Gros Bec. Donc, Emmanuel, je ne sais pas si tu veux te présenter pour commencer.
Oui, avec plaisir. Donc, pour les auditeurs, je me prénomme Emmanuel Laplante. Donc, je suis directeur au Gros Bec là, depuis septembre dernier. Auparavant, j'ai une formation de biologiste avec une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Je suis rentré au Gros Bec pour la petite histoire en mai 2018 en tant que chargé de projet plan directeur de l'eau. Et depuis, j'ai passé, ça fait 4 ans maintenant que j'étais à l'organisme. J'ai passé de chargé à coordonnateur plan directeur de l'eau pour ensuite devenir directeur général à l'automne dernier.
Super. Et Sandrine, maintenant.
Oui, bonjour. Donc, Sandrine Desauniers, je suis directrice adjointe au Gros Bec, également entrée dans l'équipe à l'automne 2018. Et pour moi, dans le fond, là, c'est un parcours là, qui a quand même... J'adore les organismes de bassins versants et les rivières, donc j'y travaille depuis plus de 15 ans. J'ai une maîtrise, un bac et une maîtrise en géographie. J'ai fait une maîtrise axée là, sur la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Et dans le fond, je m'occupe là, de différents projets, mais également ben, gestion de l'équipe et puis développement de stratégies là, pour l'organisme.
Super. Puis, ben, je vais prendre un petit moment pour me présenter aussi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est Chloé Lacasse. Je suis chargée de projet LAC pour le Gros Bec. Moi, je suis au Gros Bec depuis un an et demi. Mon poste, en général, là, c'est vraiment d'être un accompagnement là, pour les lacs, les associations riveraines, créer des projets en collaboration avec les municipalités et les assos. Puis moi, en fait, j'ai fait une technique en bioécologie au Cégep de Sainte-Foy, puis un baccalauréat en environnement naturel et aménagé. Donc, ça faisait un petit topo là, des voix que vous allez entendre là, au cours de l'épisode. Mais maintenant, je pense que ça va être important de bien présenter c'est quoi un organisme de bassin versant, mais avant ça, c'est quoi un bassin versant?
Oui, en effet, c'est une question qui est souvent posée. Bassin versant, c'est un territoire qui est drainé par un cours d'eau. Donc, tout le territoire au Québec est dans un bassin versant. Il y a plusieurs, il y a des milliers de bassins versants au Québec. Donc, c'est vraiment un territoire qui est délimité par une crête, pas nécessairement de montagne, mais de hauteur. Puis, on appelle la ligne de partage des eaux. Donc, les gouttes d'eau de pluie qui tombent, elles vont se diriger par la pente naturelle, soit vers la rivière Bécancour, ou si elle tombe un petit peu plus à l'ouest, vers la rivière Nicolette, notre voisine, par exemple. Donc, il y a des bassins versants de plus grande ampleur, comme celui du Saint-Laurent, qui draine presque un quart du Québec. Il y a les bassins de niveau 1, comme on appelle, dont celui de la rivière Bécancour, qui se jette dans le fleuve, donc qui alimente le fleuve. Dans la zone Bécancour, nous, on s'occupe donc de... On regroupe sur le territoire là, plusieurs bassins versants de niveau 1 qui se jettent au fleuve, comme les rivières là, dans le coin de Bécancour, donc rivière Gentilly, la rivière Petite du Chêne. Il y a des plus petites rivières aussi là, donc qui peuvent être de cet ordre-là, comme la rivière Marguerite, Godefroy, du Moulin. Donc, il y a aussi à l'intérieur d'un bassin versant, comme celui de la rivière Bécancour, par exemple, ce qu'on appelle des sous-bassins versants, donc des plus petits bassins versants de rivières qui vont venir alimenter la rivière Bécancour, comme par exemple la rivière Palmer, donc le sous-bassin de la rivière Palmer, le sous-bassin de la rivière Osgood, le sous-bassin de la rivière Aupin, par exemple. Donc, il y en a quand même plusieurs et puis on peut... utiliser le concept, là, ça peut, un bassin versant peut faire... quelques hectares, tout comme il peut couvrir un territoire là, de milliers de kilomètres carrés. Donc, celui de la rivière Bécancour a un peu plus de 2000 kilomètres carrés, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Puis nous, ben, quand on dit qu'on s'occupe des bassins versants, en fait, on ne s'occupe pas tant de l'eau comme telle. L'eau, elle fait son travail, elle suit son cours d'elle-même, mais on travaille surtout avec les gens, finalement, qui vivent sur ce territoire-là et qui, par tous les gestes qu'on pose au quotidien, on finit par avoir une influence sur le territoire sur lequel on vit et par le fait même sur l'eau, finalement, qui coule dans ce territoire-là, qui se retrouve dans ce territoire-là et puis qui se retrouve dans les rivières.
Ouais, super. Je pense que ça fait un bon topo là, pour mieux comprendre. Puis maintenant, peut-être expliquer un peu c'est quoi un organisme de bassin versant, maintenant qu'on comprend mieux c'est quoi un bassin versant en tant que tel.
Oui, donc un organisme de bassin versant, en fait, donc comme Sandrine l'a expliqué tout à l'heure, ben, à la base, c'est un organisme en fait qui s'occupe, qui est centré autour d'un bassin versant d'un cours d'eau donné. Donc, plus spécifiquement, un organisme de bassin versant, donc je vais utiliser l'acronyme OBV là, pour la suite du balado, donc pour organisme de bassin versant. Donc, c'est un organisme qui est chargé de coordonner la gestion intégrée des ressources en eau sur un territoire. Donc, qu'est-ce que la gestion intégrée des ressources en eau ou la GIR? Donc, c'est un mode de gestion vraiment qui tient compte de l'ensemble des usages du territoire, en fait, de l'ensemble des usages des acteurs de l'eau sur le territoire d'un bassin versant. Donc, on peut penser, entre autres, aux agriculteurs, aux municipalités, aux gens du milieu forestier, aux associations de riverains, aux citoyens, en fait, tout utilisateur de l'eau sur un territoire. En fait, ils recherchent des avantages, ils recherchent des usages. Donc, la gestion intégrée, c'est de prendre en fait les besoins de chacun et de trouver une façon d'harmoniser ces besoins-là, ces usages-là pour avoir une utilisation durable de l'eau sur le territoire du bassin versant. Donc, l'organisme de bassin versant, lui, a été mis en place à la base par le gouvernement du Québec, par la politique de l'eau en 2003. En fait, c'est un peu le début de l'historique de la gestion par bassin, la gestion intégrée de l'eau au Québec. Donc, le gouvernement a chargé des organismes de bassin versant de réaliser la gestion de l'eau, la gestion intégrée de l'eau. Donc, plus spécifiquement, l'OBV a comme mandat, c'est surtout de coordonner cette gestion-là avec les différents utilisateurs au sein d'une table de concertation. Puis on a plusieurs sous-mandats associés à ça. Donc, entre autres, c'est de coordonner, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un processus de concertation pour s'assurer vraiment que l'ensemble des utilisateurs ait une représentation qui est équitable, donc qu'il n'y ait pas trop d'agricoles, qu'il n'y ait pas trop de forestiers, qu'il n'y ait pas trop de municipales, mais que chacun y trouve sa voie. Ensuite, un organisme est plus spécifiquement aussi chargé de coordonner l'élaboration d'un plan directeur de l'eau et de sa mise à jour. Donc, le plan directeur de l'eau, c'est un peu la pierre angulaire de la gestion intégrée. Donc, c'est vraiment un peu le plan d'action qui est élaboré par les utilisateurs, donc par la table de concertation, qui va un peu guider les actions à faire pour adresser les problématiques de l'eau qui sont retrouvées sur le territoire. Donc, ça peut être des problèmes de qualité d'eau, des problèmes de cyanobactéries, des problèmes de manque d'eau. Ça peut être vraiment, c'est vraiment toutes problématiques qui émergent, qui sont répertoriées par les utilisateurs. Puis le plan d'action, en fait, établit des objectifs pour essayer d'y adresser. Ensuite, également, un OBV est chargé de mobiliser les utilisateurs de l'eau et du territoire vers un passage à l'action pour la mise en œuvre de ce plan directeur-là et de favoriser la cohérence et la mise en œuvre de ce plan directeur-là en faisant sa promotion. Donc, en gros, c'est vraiment suite à l'adoption du plan directeur de l'eau, un OBV est également chargé de mobiliser les utilisateurs puis les acteurs de ce plan d'action-là pour mener à bien les actions. Donc, d'une part, ça se traduit avec des actions que l'OBV fait elle-même. Donc, on peut faire des études, on peut faire des projets d'aménagement, on peut faire des projets de bande riveraine, un paquet d'interventions. Également, on est chargé de communiquer avec les gens, de les enjoindre à l'action, un peu de les mobiliser, en fait. Et pour finir, les OBV sont également chargés de coordonner les exercices, en fait, la mise à le suivi et l'évaluation du plan directeur de l'eau, puisque c'est un processus, en fait, c'est pas fixe, c'est un processus qui se répète. Donc, à la fin du, en fait, d'une période, à la fin du plan d'action, on doit en faire le suivi, évaluer c'est quoi les bons coups, c'est quoi les mauvais coups, quelle action a été réalisée, quel objectif a été atteint, pour ensuite répéter le processus et refaire un nouveau plan d'action pour un prochain cycle. Donc, nous, on marche avec un cycle environ de 10 ans habituellement.
OK, super. Puis, quand on parle là, de l'organisme et des projets qu'on peut faire, ça ressemble à quoi à une équipe là, dans un organisme de bassin versant? C'est qui ces beaux gens-là?
En fait, c'est assez divers. Donc, au Gros-Bec, plus spécifiquement, là, on a environ une douzaine de personnes en ce moment là, au sein de l'équipe. Donc, outre moi et Sandrine qui s'occupent plus de la direction de l'organisme, un peu la coordination des projets, on a entre autres un coordonnateur de projet qui s'occupe, je me suis Jean Fillon, qui s'occupe de coordonner tous les projets terrain et la géomatique à l'organisme. Il y a toi, Chloé, là, qui s'occupe des projets plus en lien avec les lacs. On a Daphné Manceau qui s'occupe surtout de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau, qui pilote également d'autres projets. On a des ressources, entre autres, là, il y a Francis Bonin qui s'occupe de d'autres projets plus en environnement, en bande riveraine, des choses comme ça. On a des ressources en géomatique, donc on a un nouveau chargé de projet en géomatique qui va rentrer dans les prochaines semaines. On a également une technicienne en géomatique qui nous aide pour en fait la réalisation des diverses cartes et des divers éléments. On a des ressources en communication. En fait, on a vraiment une équipe divers là, qui essaie de ratisser le plus large possible pour mener à bien les projets.
Oui, puis je renchérirais sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, en disant que ce qui est intéressant au sein d'un organisme de bassin versant, on a souvent des équipes multidisciplinaires qui regroupent donc des gens qui ont une formation en biologie, formation en géographie. Souvent, on travaille en équipe, beaucoup là, de géographes et de biologistes, mais bien sûr aussi là, avec des formations en environnement, les bacs en environnement, maîtrise en environnement, là, qui sont plus dans une perspective là, multidisciplinaire, parce que ça prend beaucoup de compétences pour autant bien connaître le territoire. Puis connaître la faune, la flore qui s'y retrouve, mais aussi travailler avec là, les différentes instances municipales, comprendre toutes les lois et règlements là, qui gèrent le territoire, qui gèrent les gens sur le territoire, qui gèrent l'eau. Et puis avoir des compétences aussi au niveau, comme tu disais, là, de communication pour tous les volets de sensibilisation. Donc, ça prend vraiment des gens. C'est dur d'avoir un profil qui recoupe toutes ces compétences-là. Là. Donc, et puis c'est sûr que selon certains projets, on peut s'adjoindre aussi des agronomes, des géomorphologues, des ingénieurs en hydraulique. Donc, ça peut devenir très spécialisé selon les projets aussi.
Oui, super. Puis là, j'ai remarqué un peu que j'ai manqué un peu la partie du financement. Là, j'ai passé ce petit bout-là tantôt quand on expliquait le bassin versant puis l'organisme, mais je pense que c'est un volet qui est quand même important à comprendre là aussi. Donc, je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux ajouter un petit peu quelque chose là-dessus.
Oui. Donc, comme que les organismes de bassin versant, en fait, j'ai passé un petit peu rapidement tout à l'heure sur ce sujet-là, mais la gestion intégrée de l'eau est un mode de gestion qui est inscrit dans la loi. Donc, à la base, les organismes de bassin versant ont été mis à jour, ont vu le jour en 2003 avec la politique nationale sur l'eau. Donc, à l'époque, il y a eu 33 organismes de bassin versant de bassins prioritaires qui ont été mis à jour. Mais plus tard, en 2009, avec la loi sur l'eau, vraiment, ce mode-là est rentré au sein de la loi, la loi provinciale. Puis vraiment a vu un peu la mise sur place de 40 OBV, donc par des zones de gestion intégrée de l'eau. Puis même auparavant, en 2003, la façon qu'on procède, c'est que tous les organismes de bassin versant ont des ententes, en fait des conventions avec le ministère de l'Environnement pour un peu assurer un financement de base pour la réalisation de cette gestion intégrée de l'eau. la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, on a un premier, je dirais environ peut-être le quart du financement de l'organisme qui provient vraiment du ministère de l'Environnement pour coordonner la table de concertation, mettre à jour le plan directeur de l'eau, comme je disais tout à l'heure, mobiliser les acteurs. Donc, ça nous permet de faire des petits projets ou des activités vraiment pour coordonner toute la gestion intégrée de l'eau. Donc, c'est un terme que je répète souvent, mais ça reste un peu le but premier de l'organisme. Et donc, ça nous permet aussi de faire vivre un peu l'organisme. Mais à part ça, donc, vous comprendrez que, comme je disais, c'est environ le quart de l'organisme. Donc, ce financement-là nous permet vraiment d'assurer les activités de base, mais ça ne nous permet pas de réaliser les projets. Donc, il y a vraiment une grande partie du financement de l'organisme qui provient vraiment de différents bailleurs de fonds, des fonds publics, des fondations, des choses comme ça, pour vraiment réaliser différents projets, là, autant fauniques, autant des aménagements. Ça peut être vraiment très divers comme sujet. Donc, ce financement-là provient, par exemple, là, de la Fondation de la Faune du Québec, des différents ministères. Donc, il y a différents programmes qui existent tant au ministère de l'Environnement du Québec, d'Environnement Canada, du ministère de la Faune du Québec. Donc, ça provient vraiment de sources diverses. On réalise des projets par nous-mêmes, on en monte également avec différents partenaires. Là, donc, c'est pas uniquement des projets 100% gros bec. Là, il y a plusieurs projets aussi qui sont à différentes portées, autant régionales que des fois locales avec différents partenaires. Pour finir, une troisième source de financement, c'est vraiment au niveau de l'offre de services. Donc également, le gros bec, on essaie de plus en plus de devenir un peu une entreprise d'économie sociale qu'on appelle. Donc, on offre des services aux particuliers, aux municipalités, aux différents organismes pour un peu mettre à profit les compétences qu'on a très variées au sein de l'organisme. Donc, pour différents mandats, différents projets. Donc, ça reste un peu comme un service privé, comme un peu une firme, mais on n'est pas tout à fait une firme. Puis le financement, en fait, ces fonds-là permettent d'assurer le financement de base de l'organisme, de maintenir l'équipe. Donc, c'est un peu une autre source de financement là, alternative pour faire vivre l'organisme.
Oui. Bon, mais je pense qu'avec toutes les informations qu'on vient de nommer, c'est quand même un peu plus clair là, pour les auditeurs, du moins on l'espère, qu'est-ce qu'un organisme de bassin versant et qu'est-ce que le gros bec. Puis on utilise beaucoup l'acronyme gros bec là, pour groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, puisque le nom est assez long. Donc quand on dit gros bec, c'est vraiment notre organisme en tant que tel. Donc maintenant qu'on comprend mieux tout ça, je pense que ce serait intéressant de parler de quelques-uns de nos gros projets là, qu'on a fait dernièrement ou qu'on a encore en cours actuellement. Pour commencer, je pense qu'un gros projet qui a marqué la région, principalement le coin de Thetford Mines, qui est beaucoup connu là, par rapport aux halles de minière. Je pense que Sandrine pourrait nous en parler plus. Là, c'est un projet sur lequel elle a beaucoup travaillé. Donc, je vais lui laisser là, la parole à ce sujet-là.
Oui, merci Chloé. Donc, effectivement, la région de Thetford Mines, c'est la source de la rivière Bécancour. Donc, on est dans ce qu'on appelle la Haute Bécancour et déjà dans les années 80, le ministère de l'Environnement disait urgence d'agir dans la Haute Bécancour puisque cette région-là abrite les fameuses mines d'amiante du secteur de Thetford Mines et malheureusement, c'est un secteur là, d'activité qui a commencé avant l'entrée en vigueur des lois environnementales. Donc, on avait moins conscience des impacts qu'on faisait là, sur le territoire dans ce temps-là. Les activités minières ont commencé en 1880. Donc, on a un lourd passé minier quand même là, dans ce secteur-là. Donc, des résidus miniers qui contiennent de l'amiante, qui sont entassés dans des petites montagnes d'à peu près 100 mètres de haut qu'on appelle des haldes et finalement qui sont à nu. Et même si les activités minières ont cessé définitivement en 2012, donc ça fait 10 ans, ces montagnes-là restent à nu, la végétation n'est pas capable de s'y installer. Et finalement, l'eau, les pluies, la fonte des neiges fait en sorte qu'il y a vraiment beaucoup d'érosion, donc beaucoup de ces résidus-là qui sont lessivés, qui sont transportés vers la rivière Bécancour, qui, elle, vraiment se ferait un chemin au travers de ces montagnes. Ça donne un paysage assez spectaculaire, mais quand même, malheureusement, des problèmes, justement, d'ensablement au niveau des lacs fluviaux de la rivière Bécancour, là, qui, dans le fond, la rivière dans ce secteur-là, elle s'élargit en plusieurs lacs. Et dans le fond, ces lacs-là sont des zones où est-ce que tous les sédiments qui sont transportés, donc toutes les petites particules là, qui sont transportées par l'eau finissent par se déposer. Notamment le lac à la truite d'Irlande, donc qui est à Irlande, subit là, en première ligne là, les contre-coups là, de cette... finalement, de cette négligence environnementale, là, qu'on peut dire. Là. Donc, c'est un peu une des raisons pour laquelle la rivière Bécancour avait été ciblée comme un des bassins versants prioritaires par la politique nationale de l'eau, en raison de ce secteur-là. Puis, il faut dire aussi que la région connaît aussi, là, avec la ville de Thetford Mines, des défis au niveau de la gestion des eaux usées municipales. Qui ne sont pas réglés encore à ce jour, on y travaille, c'est-à-dire la ville y travaille, donc il y a quand même encore la qualité d'eau qui est mesurée dans la rivière Bécancour en aval, donc du secteur là, de la ville de Thetford Mines et de tous ces sites miniers-là. Dans le fond, elle est dans les plus mauvaises au Québec. Donc, c'est vraiment... Un chantier titanesque qui est entamé et qui va se perdurer, je sors quand même de nombreuses années. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, bien, dans le fond, c'est qu'on s'est dit comme en tant que table de concertation. Donc, c'est notre but, nous, c'est on n'est pas un organisme environnemental revendicateur. On est vraiment là pour même si on est. On peut le considérer un organisme environnemental, mais notre approche, c'est vraiment de cogner à toutes les portes. Donc, on est allé voir les différentes municipalités qui sont dans ce secteur-là, donc la ville de Thetford Mines, bien entendu, la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine et la municipalité d'Irlande. On est allé voir les compagnies minières qui sont encore propriétaires de ces sites-là, Société Asbestos, Granny Lake. On a approché aussi les ministères, donc qui ont un mot à dire sur ce qui se passe dans ce coin-là, donc la direction régionale du ministère de l'Environnement, ainsi que la direction de la restauration minière du ministère d'Énergie et Ressources naturelles du Québec. Donc, on a regroupé ces gens-là, les représentants de la municipalité régionale de comté des Appalaches, les associations de riverains, comme on disait, là, autour des lacs qui subissent un peu là, qui subissent les contre-coups là, de ce secteur-là. Donc, l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande, qui est un des sonneurs d'alarme dans ce coin-là aussi. Les associations des riverains et riveraines du lac Joseph, l'Association du lac William. Donc, on regroupe ces groupes-là autour d'une table pour vraiment cibler les enjeux. Et puis, on a bien sûr les députés aussi, Mme Isabelle Lecour notamment, M. Luc Berthold s'implique aussi, suivent les travaux. Donc, on a regroupé tout le monde pour dire, bon, ben, on détient tous une partie de la solution, essayons de la construire ensemble, puis que ça soit un projet qui est porté par l'ensemble de ces acteurs-là. Et donc, on fait une démarche de concertation qui porte fruit. Et je pense que ce qui est un des grands gains, c'est que là, il y a un lien de confiance d'établi. Je pense que là, on peut maintenant s'interpeller autant que les compagnies minières que les ministères, que les villes, puis dire OK, aller chercher de l'information qui était plus sensible. Ça a été un des premiers pas. Et puis maintenant, on a donc abouti après 2 ans de travail sur un plan de contrôle des sédiments amiantés pour ce secteur-là. Donc, l'idée, c'est de trouver une solution pour freiner finalement l'apport de ces résidus-là vers la rivière Bécancour. Là, c'est un plan concerté auquel tous les acteurs là, que j'ai nommés adhèrent. Et ça nous permet là, de dire, dans le fond, que ce qui en est ressorti, c'est que oui, on a aménagé un bassin de sédimentation. Donc, on se dit, une des approches faciles, c'est d'aménager un bassin de sédimentation pour que l'eau qui coule sur ces montagnes de résidus-là soit décantée dans un petit bassin qu'on entretient. et avant qu'elle se retrouve dans la rivière. Donc, il y en a un qui a été aménagé, on l'appelle le bassin Vézina, à la mine Normandie, donc à Irlande. Et on l'a aménagé à l'automne dernier, il s'est rempli au cours de l'hiver, il a été entretenu, donc c'est la compagnie minière, la société Asbestos qui en est propriétaire. Et donc, c'est eux qui assurent son entretien. Le Gros Bec, lui, assure en ce moment le suivi de la qualité de l'eau. Donc, c'est notre projet pilote pour voir un peu à quelle rapidité, à quelle vitesse ces types de bassins-là vont se remplir. On n'avait aucune donnée là-dessus. Là. Il y avait très peu de choses, en fait, qui avaient été faites sur ce secteur-là jusqu'à maintenant. Donc, ça nous permet de voir que c'est quand même une érosion importante. Ces résidus miniers-là sont quand même faciles à transporter par l'eau. On a fait un suivi de qualité de l'eau aussi de la rivière Bécancour au cours de l'été dernier qui nous a permis de constater finalement que l'impact sur la qualité de l'eau de ces sites-là, c'est principalement au niveau de l'apport en fibres d'amiante dans la rivière Bécancour. Par contre, on a de la difficulté à apprécier l'impact réel de ces fibres-là, puisqu'au Québec, il n'existe pas de seuil pour déterminer là, à partir de quel moment on doit les fibres d'amiante auraient un impact soit sur les poissons, soit sur la santé humaine. Donc, on est dans le vide, mais minimalement, on sait qu'il y a des millions de fibres d'amiante par litre qui se retrouvent dans la rivière Bécancour suite à leur passage à travers ces montagnes de résidus miniers-là. Il y a aussi donc de la présence de certains métaux qui se retrouvent dans l'eau, mais c'est moins problématique. Là. De ce côté-là, il y a des seuils qui existent pour déterminer si ça devient toxique ou non, mais de ce côté-là, c'est moins inquiétant. On ne connaît rien encore sur les eaux souterraines. On est vraiment encore au début, donc on a besoin de mener plus de recherches au niveau là, notamment d'impact sur la qualité sur la vie aquatique et éventuellement sur la santé humaine. Pour l'instant, les études Santé Canada disent que c'est pas inquiétant, mais la communauté internationale est d'accord pour dire qu'il y a un manque de recherche scientifique, qu'il y a un besoin de recherche scientifique pour mieux cerner l'impact de qualité, l'impact des fibres d'amiante dans l'eau. Mais minimalement, on sait que ces fibres-là voyagent jusqu'au lac Joseph, donc jusqu'à des municipalités comme Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et plus loin. Honnêtement, on ne le sait pas, on n'est pas allé vérifier. Le projet finalement, le plan de contrôle des sédiments amiantés vise essentiellement à trouver une solution pour capter ces sédiments-là. C'est sûr que d'installer de la végétation sur ces montagnes-là, sur les sommets des montagnes, c'est en train de se faire. Mais dans les pentes très fortes, qui sont très instables, c'est difficile pour l'instant d'aller mettre de la végétation. La technologie est en cours de développement, mais c'est aussi des frais très importants. D'un autre côté, on sait que les compagnies qui sont propriétaires de ces sites-là, notamment la société Asbestos, veulent mettre en valeur ces résidus-là, soit avec des projets là, d'extraction du magnésium, soit d'autres projets. Donc, l'idée de végétaliser pour restaurer de manière finale ces sites-là qui sont encore qui sont pas complètement fermés finalement à toute exploitation. Là. Oui, l'amiante, on l'exploitera plus, là, mais il y a d'autres ressources dans ces résidus-là. Donc, on est plus en mode dans une étape avant la restauration finale où est-ce qu'on se dit, bon, mais comment on peut faire pour améliorer là, la qualité de l'eau de la rivière Bécancour dans ce secteur-là? Et ce qui est ressorti comme une des propositions finalement qui était la meilleure, qui avait des gains au niveau environnement puis au niveau faunique aussi, c'est finalement de restaurer ce qui était anciennement le lac Noir, donc le secteur Black Lake à Thetford Mines. Il y avait un superbe lac qui s'appelait le lac Noir qui a été finalement dragué, asséché entre 1954 et 59 pour laisser place à l'exploitation de l'amiante. Et aujourd'hui, c'est un site minier qui est fermé, bien entendu, et qui s'appelle le site minier, finalement, le lac d'amiante. Et pour assécher ce lac-là, qui était un ancien lac fluvial de la rivière Bécancour, donc la rivière Bécancour rentrait dans ce lac-là et en ressortait, l'alimentait principalement. La rivière aussi a été dérivée à la même époque, donc sur plus de 2 km dans ce secteur-là. Et ce qui est proposé finalement, c'est de restaurer la rivière Bécancour dans son tracé originel, ou en tout cas le plus proche possible, et restaurer l'ancien lac Noir, qui finalement, bon, pourrait s'appeler le lac d'Amiante aussi, en hommage à son passé là, minier. Mais bref, c'est pas une opération qui est si difficile au niveau là, technique, c'est-à-dire que ça serait de creuser des canaux, recréer un lit pour la rivière Bécancour sur quelques centaines de mètres pour son entrée dans le lac et pour sa sortie. Je pense que là, donc on en est à ce moment-ci à voir au niveau du ministère de l'Environnement notamment quelles études vont être demandées pour réaliser éventuellement ce chantier-là. En discussion avec le propriétaire du site aussi, qui n'est pas tenu de restaurer ce lac-là, mais qui se dit quand même, qui appuie le plan, puis qui dit qu'il collabore au projet sans nécessairement en être porteur. Donc, ce lac-là viendrait finalement, s'il est restauré, jouer son rôle de lac, qui est quand même une zone où est-ce que les sédiments se déposent. Donc, les matières en suspension dans l'eau peuvent, l'eau ralentit, donc naturellement, les matières se déposent. Et donc, ça redonnerait aussi un accès là, faunique à un autre plan d'eau. Donc, c'est un, quand même un projet donc, qu'on va mener encore en partenariat avec les partenaires, là, avec donc, les villes, les municipalités, les propriétaires miniers des sites, avec les associations de riverains là, des lacs en aval. Bref, tous les acteurs que j'ai nommés tout à l'heure au cours des prochaines années. On attend aussi, il faut le nommer, que le gouvernement du Québec se prononce sur... dans le fond, il y a eu un bureau d'audience publique en environnement en 2019-2020 sur l'amiante, la gestion de l'amiante et des anciens sites miniers notamment. Un rapport qui a été produit par le bureau d'audience publique en environnement qui propose notamment d'agir rapidement pour... arrêter pour stopper l'érosion de ces haldes-là pour éviter que les sédiments se retrouvent à la rivière. Et ce rapport-là a été déposé au gouvernement à l'été 2020. Puis on attend toujours le plan d'action du gouvernement suite à ce rapport-là. On sait qu'il y a de l'argent qui a été annoncé au dernier budget, donc on a très hâte d'entendre le plan d'action que le gouvernement a à nous proposer pour la gestion de ces anciens sites miniers-là. On doit le dire, là, au Québec, le gouvernement a annoncé 38 millions, notamment là, pour la gestion de l'amiante au Québec, la valorisation aussi de ces résidus miniers-là. Donc, on sait là, que le gouvernement va autoriser cette valorisation-là. Et c'est probablement la valorisation qui va aider à financer finalement la restauration de ces sites-là. Mais on n'en sait pas plus. Donc, on attend impatiemment cette annonce-là qui va nous permettre là, de savoir un peu quelle aide va nous venir du gouvernement, quelle direction le gouvernement, quel rôle le gouvernement va jouer là, dans ce secteur-là. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, on est un peu en attente là, de ce plan-là pour continuer ce projet-là.
Wow! Ben oui, c'est un très, très gros projet, puis c'est un beau projet d'envergure. On espère que tout va se placer puis qu'on va avoir des bonnes nouvelles là, dans le futur par rapport à ça. En t'entendant parler, je suis venue avec une question en tête. Là. Peut-être que les auditeurs ne saisissent pas ça. Venant de Thetford, là, j'ai souvent vu des algues qui sont végétalisées versus d'autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas là, si tu pourrais nous expliquer peut-être la distinction entre les deux. Pourquoi il y en a qui peuvent être végétalisées puis d'autres non? Parce que parfois, ça devient flou pour les gens, je pense, de dire « ben oui, il y en a qui sont végétalisées. Pourquoi... pourquoi pas oui. Aller vers ça? Ouais. »
Oui, effectivement, c'est une bonne question. Quand je disais qu'elles ne sont pas végétalisées, c'est que nous, dans le fond, on s'attarde surtout à celles qui ne se végétalisent pas. C'est celles qu'on appelle de résidus fins. Donc, c'est les résidus qui sont passés par les moulins d'usinage. Pour extraire l'amiante, il fallait concasser la roche. Puis c'était vraiment une extraction mécanique. Donc, on concassait la roche, puis ça donnait, on extrayait les fibres d'amiante, puis ça laissait de la roche concassée. Donc, des fois, c'est de la taille d'un gravier, des fois, c'est plus fin, ça peut être même une taille du sable, des fois, c'est plus grossier un peu, mais quand on parle de résidus fins, on est dans ces tailles-là, là, comme des petits cailloux, du gravier, du sable, par exemple. Et c'est ces montagnes-là qui ont été accumulées aussi par convoyeurs, souvent, donc par le sommet. Donc, c'est vraiment comme une grosse. On ajoutait le matériel par en haut qui finissait par descendre le long des pentes puis se déposer là où la gravité arrêtait de le tirer dessus. Donc, c'est très instable. Versus, quand il y a eu l'exploitation minière, il y avait ce qu'on appelait les stériles miniers. Donc, c'était des résidus miniers, mais grossiers. Eux, c'était souvent c'était la roche qui ne contient pas d'amiante, finalement, qui a été, ou même le sol organique qu'on enlevait au début là, pour avoir accès au gisement. Ces stériles-là, le nom le dit un peu, ils, en principe, ne contiennent pas d'amiante, donc ils n'ont pas été concassés, ils sont très grossiers. Des fois, c'est des énormes blocs, des fois, c'est ça peut aussi être de la taille de cailloux. Bref, il y a des grosseurs variées et eux autres, souvent, c'est des montagnes moins élevées parce que les gisements n'étaient pas si profonds que ça, finalement. Ces montagnes-là, ben, finalement, de par juste leur géométrie, là, il y avait comme des gros blocs, des petits blocs, fait que là, avec le temps, il y a de la matière organique du sol qui s'est déposée dans des petites craques, dans des petits coins. Il y a de l'eau qui s'est accumulée à certains endroits. Puis là, ça a permis à des graines qui tombaient là par le vent de germer. Puis on voit effectivement là, que maintenant, il y a des arbres matures des fois là, dans ces montagnes-là. Fait que celle-là, elle nous... heureusement, la nature s'en occupe.
Oui, c'est ça. Bon, parfait. Je pense que ça précise bien là, la petite question. Sinon, bon, pour un deuxième projet là, à présenter, je vais y aller, je vais le présenter. Donc, c'est le projet « Adapter la gestion des cours d'eau de la zone Bécancour dans un contexte de changement climatique ». Donc, ce projet-là bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec qui est tirée du programme Action Climat Québec et qui rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. C'est un projet qui est en œuvre au Gros-Bec depuis 2021 et ce jusqu'en 2024. Ce projet-là, comme le nom le dit, il est beaucoup axé sur la gestion des cours d'eau, la gestion des eaux pluviales, la gestion du ruissellement dans un contexte de changement climatique. Ce projet-là, il y a trois volets distincts qui peuvent être un peu des sous-projets, si on peut dire, parce qu'ils sont quand même assez différents. Le premier volet, c'est l'espace de liberté. Donc, on a fait un projet pilote là, d'étude de l'espace de liberté du ruisseau Bullard, qui est dans la municipalité là, de Saint-Jean-de-Brébeuf et Inverness. Donc, ce projet-là, c'est en fait de voir, bon, qu'est-ce que l'espace de liberté d'un cours d'eau? En fait, c'est l'espace... que le cours d'eau pourrait utiliser là, en fait, naturellement là, s'il n'était pas contraint. Exemple, le ruisseau Bullard, c'est un cours d'eau qui a été linéarisé dans le passé, ce qui fait qu'il était contraint là, dans un espace vraiment. Donc, il n'y a pas ces méandres naturels. En fait, c'est vraiment l'espace de liberté, c'est de lui redonner la possibilité de faire ses méandres naturels, de reprendre son écoulement. Donc, dans ce volet-là, ça a été plus une étude. Bon, premièrement, ça ressemble à quoi? La cartographie, là, le mettre sur une carte, cet espace-là, ça ressemblerait à quoi? Ensuite, de faire de la concertation avec les acteurs du milieu et avec les ministères impliqués et tout ça. Puis, pour en sortir finalement, ce qui n'est pas encore fait, là, on est encore dans ces étapes-là, avec un plan d'action là, par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le volet espace de liberté que j'ai vraiment simplifié. Là, mais si vous voulez en apprendre plus, là, vous pouvez toujours nous écrire ou sinon, il y a également des publications qui sont faites là, sur notre site Internet. Ensuite, on a un volet également municipal dans le cadre de ce projet-là. Puis le volet municipal, en fait, c'est vraiment d'offrir un accompagnement aux différentes municipalités du territoire dans la gestion durable des eaux pluviales. Puis quand on parle de gestion durable des eaux pluviales, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais en fait, c'est vraiment d'essayer en fait de gérer l'eau de la manière la plus durable possible, soit en essayant qu'elle s'infiltre le plus rapidement possible à l'endroit où elle tombe. Donc, une goutte d'eau, idéalement, devrait s'infiltrer dès directement à l'endroit où elle est tombée. De cette façon-là, bon, ça permet de recharger la nappe phréatique, mais également, ça évite le ruissellement de cette eau-là. Exemple, l'eau qui va s'écouler sur des surfaces imperméabilisées comme les routes, donc des surfaces où c'est impossible de s'infiltrer, va s'écouler puis va amener dans son passage tout ce qui est sur ces surfaces-là. Donc, s'il y a du sable, s'il y a des roches, des contaminants, etc., ben, tout ça va s'en aller vers un cours d'eau ou vers un égout pluvial qui est finalement redirigé dans un cours d'eau aussi, donc dans les milieux naturels. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les municipalités pour les aider à favoriser l'infiltration de l'eau sur son territoire, puis à gérer mieux les eaux là, qui ruissellent sur son territoire. Pour faire ce projet-là, bon, premièrement, il faut faire un autodiagnostic, donc dire, bon, comment la ville ou la municipalité en question gère les eaux pluviales actuellement? Ça ressemble à quoi sur le territoire? C'est quoi les problématiques principales? Puis de là, on peut aller avec les municipalités à développer un plan d'action qui vise vraiment à cibler les actions qui vont être bénéfiques dans le cadre de la gestion durable des eaux pluviales, toujours en gardant une optique de changement climatique, en considérant que dans le futur, il va y avoir plus de pluies extrêmes, il va aussi avoir plus de chaleur extrême. Donc, tout ça, ça va influencer beaucoup, ça va être beaucoup influencé par la gestion des eaux pluviales, dans le sens qu'il va falloir s'y adapter. On n'aura pas le choix pour pouvoir protéger nos milieux naturels. Donc, on crée des plans d'action pour les municipalités, en collaboration avec la municipalité, bien sûr. Puis aussi, on va offrir des formations aux employés municipaux par rapport à différentes techniques là, de gestion des eaux pluviales ou différentes infrastructures vertes qui peuvent être implantées dans le territoire. Quand on parle d'infrastructures vertes, on peut parler de bassins de sédimentation, comme Sandrine l'expliquait tantôt, qui sont des bassins qui permettent à l'eau de se décanter. Donc, s'il y a des sédiments là, qui arrivent, bon, ben de décanter avant de se rendre dans le milieu naturel. Mais ça peut aussi être des noues végétalisées à la place des fossés, par exemple. Donc, ça va être ça ressemble vraiment à des fossés, mais il y a de la végétation avec des bonnes racines qui vont permettre d'infiltrer l'eau, puis de ralentir l'eau, plutôt que l'eau passe dans un fossé là, qui est vraiment, qui n'est pas végétalisé, en fait. Donc, l'eau va s'écouler plus rapidement. Donc, c'est ça qu'on parle quand on parle d'infrastructures vertes. Ça fait un peu le tour du volet municipal. Puis sinon, on a aussi un volet là, plus éducatif. Donc, ça, c'est dans les écoles secondaires et dans les camps de jour. Ce volet-là, il est en cours de développement actuellement. On va faire des ateliers dans les camps de jour cet été avec les jeunes là, pour parler de l'eau de pluie, du ruissellement, puis des changements climatiques. Puis dans les écoles secondaires, cet automne, on va faire également des ateliers là, par rapport à la gestion des eaux pluviales et au changement climatique. Puis on veut même en venir à faire un projet là, avec les jeunes impliqués pour faire un projet de gestion des eaux pluviales là, sur le territoire de l'école. Ça va vraiment dépendre là, des écoles et des jeunes aussi, des projets qu'eux veulent faire. Donc, ça ressemble un peu à ça là, pour le projet Action Climat. Donc, maintenant, peut-être pour le troisième projet là, d'envergure qui est en cours en ce moment, je vais laisser encore Sandrine le présenter.
Oui, merci Chloé. Donc, effectivement, on a un projet qu'on a appelé là, amélioration de la qualité de l'eau des trois lacs pluviaux de la rivière Bécancour. Donc, on parle ici du lac à la Truite d'Irlande, du lac William à Saint-Ferdinand et du lac Joseph là, dans le coin d'Inverness-Saint-Pierre-Baptiste. Dans le fond, c'est un projet là, qui... On travaille à l'amélioration de ces lacs-là, je dirais en continu depuis la création de l'organisme et à tout bout de champ, on crée des nouveaux projets pour aller chercher d'autres financements pour certains volets. Là, il y a toujours du travail à faire. Ce volet-là, donc là, sur lequel on travaille en ce moment, est financé par le gouvernement du Québec et le programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent, du Fonds d'action Saint-Laurent. Vise principalement tout ce qui est justement là, les tributaires, donc les petits cours d'eau qui se jettent dans ces lacs-là. On a parlé que la Bécancour amenait des sédiments amiantés là, d'en haut, puis comme on vous le disait, on y travaille déjà dans un autre volet. Donc, mais ces lacs-là, ils ont quand même... On a la ville de Saint-Ferdinand sur le bord du lac William, on a des producteurs agricoles qui habitent proche des lacs ou dans leur bassin versant, donc dans le territoire qui est drainé directement vers ces lacs-là. On a des riverains, donc des villégiateurs, des résidents qui ont des bandes riveraines, qui ont des terrains, qui ont des accès, il y a des bateaux moteurs. Fait que, donc, il y a plein de choses qui se passent aussi là, directement dans, sur le territoire même de ces lacs-là. Ce qu'on vise dans ce volet-là pour les prochaines années, c'est travailler aussi sur tout le drainage qui se fait finalement sur les terres agricoles, sur les terres dans les érablières qui sont en production. En milieu forestier, donc on sait là, que le drainage est plus officiellement permis, mais il y a quand même du drainage existant là, qui était permis et même subventionné dans le temps, donc il n'y a pas si longtemps. Donc, on veut, puis ces apports-là font en sorte que l'eau est évacuée de plus en plus rapidement du territoire, se retrouve le plus rapidement possible dans les cours d'eau, puis le plus rapidement dans les lacs. Puis on constate que ces petits affluents-là, donc on parle du ruisseau Pinette, les ruisseaux Golden, Hamilton, la rivière Cheney, la rivière La Rochelle, la rivière Bago, par exemple. Donc, on voit là des cônes vraiment de sable là, qui s'agrandissent dans les lacs, là où ces cours d'eau arrivent dans les lacs ou dans la rivière Bécancour. Et avec les changements climatiques, on sait qu'on va avoir des coups d'eau de plus en plus intenses. Donc, tout le drainage, puis le drainage des routes aussi qui est fait, donc qui est géré souvent par les municipalités, bien, tout ce drainage-là contribue à amener beaucoup de sédiments, donc beaucoup de sable, de particules dans les lacs, et puis contribue finalement à leur vieillissement accéléré. On sait que c'est des lacs là, qui, notamment le lac William, qui vit des épisodes de cyanobactéries là, assez intenses durant les saisons chaudes. On veut essayer de contrôler, retenir ces sédiments-là à la source. Donc, ça passe par finalement des projets de plantation de bandes riveraines. Notamment, là, on travaille sur en ce moment, là, avec les producteurs agricoles du ruisseau, donc du bas, qui sont riverains du ruisseau Pinette à Saint-Ferdinand. On va faire la même chose, là, aussi au niveau de tous les riverains, là, dans le secteur là, du lac à la truite au cours de l'été. On travaille aussi là, donc à accompagner les riverains du lac Joseph aussi là, à végétaliser davantage leur rive. Donc, la végétation est un bon allié là-dedans pour retenir les sédiments à la source, finalement, les racines des arbustes, des arbres. Retiennent le sol. Donc, c'est sûr, comme Chloé, tout à l'heure, tu parlais d'infrastructure verte, ça peut prendre, c'est un bien grand mot qui peut finalement dire de plus en plus, on se rend compte que la nature a développé des outils extraordinaires qui s'entretiennent tout seuls. Donc, on veut bien utiliser justement là, la végétalisation des rives, c'est vraiment souvent le meilleur allié. Dans ces contextes-là. Puis, on veut faire de la sensibilisation, surtout justement pour rejoindre les différents acteurs, donc autant là, les forestiers, les acériculteurs. On a travaillé aussi avec les municipalités dans le cadre de ce projet-là à accompagner finalement aussi là, les employés de voirie qui font l'entretien des fossés municipaux. Il y a toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser pour ne pas mettre les fossés complètement à nu quand on les entretient pour retenir les sédiments qui s'y accumulent. Donc, d'accompagner les employés municipaux de voirie là, à apprendre des nouvelles techniques, tester des nouvelles techniques aussi. On sait qu'on est dans des pentes fortes, dans ces coins-là. Souvent, c'est des contextes particuliers. Fait qu'il y a la théorie, mais là, on va vraiment les accompagner. La municipalité d'Inverness se disait ouverte à utiliser un de ces fossés-là comme banc d'essai pour tester différentes techniques, voir laquelle est la mieux adaptée au contexte bien particulier là, de ces lacs-là. Donc, en gros, là, ce sont les activités qu'on va mener là, dans les prochains mois dans le cadre de ce projet.
Oui, puis ce projet-là, un peu en l'expliquant, on se rend compte qu'il est très complémentaire là, avec notre projet Action Climat. Les deux vont bien ensemble, puis c'est une bonne suite l'un de l'autre pour ce qui est des formations aux employés, puis même tout ce qui est drainage, finalement, ça se recoupe beaucoup.
Oui, puis je dirais, si tu me permets, que dans le fond, on se rend compte aussi là que le nerf, la gestion durable des eaux pluviales, finalement, peu importe le nom qu'on donne à tout ça, avec les changements climatiques qui s'en viennent, on se rend compte que Au niveau de la gestion de l'eau, justement, au Québec, on a toujours eu l'approche d'évacuer l'eau le plus rapidement du territoire pour les activités agricoles, notamment pour qu'au printemps, on puisse accéder aux champs le plus rapidement possible, pour qu'en foresterie, par exemple, les arbres puissent croître dans les zones plus mouillées, là, qu'on puisse avoir une meilleure croissance. Et si on évacue l'eau, les arbres poussent plus vite et plus gros. Dans les municipalités aussi, on veut pas, avec la gestion des chemins, on veut évacuer l'eau, mais on se rend compte que cette approche-là, elle va nous jouer des tours. Là. Elle commence à nous jouer des tours parce que c'est, comme on disait, là, les coups d'eau sont plus forts, sont plus rapides. Et puis, peut-être qu'aussi, à un moment donné, on va manquer d'eau. On l'évacue trop rapidement, trop efficacement. Donc, de se faire des réserves, de ralentir l'eau, pas nécessairement de plus du tout la drainer, mais peut-être de se faire des réserves d'eau, puis la ralentir, puis aussi créer, comme on disait, des infrastructures naturelles, des fois des marais filtrants ou créer des zones humides où est-ce qu'on envoie l'eau. Et puis, au lieu que ça soit un bassin de sédimentation qui est juste en roche, on peut intégrer des plantes aquatiques, comme les quenouilles notamment ou d'autres, qui vont filtrer l'eau. Ça crée un habitat. Et puis, finalement, ça permet là, de autant ralentir l'eau, la filtrer, puis améliorer là, finalement là, des habitats pour toute une belle faune qui commence à manquer d'habitat au Québec.
Oui, c'est une belle solution qui règle un peu tout en même temps, ou du moins que c'est. Là. Emmanuel, est-ce que tu voudrais nous parler de d'autres petits projets là, qu'on a au Gros-Bec en ce moment?
Oui, donc on a plusieurs autres projets. Donc ça, c'est trois gros projets là, que... soit ont été complétés ou sont encore en cours de réalisation, mais on peut penser entre autres là, auxquels travaille l'équipe. On a un projet de lutte contre la berce caucase en Chaudière-Appalaches qui a été reconduit pour une nouvelle phase là, avec qui est ici en fait d'un partenariat entre l'ensemble des différentes OBV de la région de la Chaudière-Appalaches afin de lutter contre cette plante exotique envahissante. Donc, qui est également un risque pour la santé publique. Donc, pour les auditeurs qui seraient peut-être moins familiers avec cette plante. Donc, la berce caucase, c'est une plante qui a été importée là, il y a plusieurs années au Québec. Ça fait en fait des grandes ombelles blanches avec des énormes feuilles. Mais le problème, c'est que cette plante-là, en fait, la sève au contact de la peau crée des brûlures quand même importantes. Donc, en fait, cette plante-là, en fait, pour les gens qui pourrait s'y frotter, qui pourrait entrer en contact avec. Donc, la sève est photosensible. Donc, avec l'action de la lumière, ça l'efface les barrières de protection de la peau contre les rayons du soleil, ce qui crée vraiment des brûlures au deuxième. Et je crois pas que ça se range jusqu'au troisième degré, mais c'est quand même très important. Ça peut créer des cloques d'eau, ça peut vraiment... même dans certains cas, causer des cicatrices. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique, en fait. Là. Donc, on a un projet là, depuis 2018, en fait, qui a été mis en place pour l'ensemble de la région administrative du Chaudière-Appalaches, qui était vraiment de répertorier les occurrences de berce caucase, puis de contrôler celles-ci pour vraiment essayer de les éradiquer sur le territoire. Nous, sur le territoire de la zone Bécancour, on a des très bons résultats. Donc, mais c'est sûr que c'est un projet de longue haleine, puisque la berce crée des banques de graines dans le sol, ce qui fait que c'est un travail sur plusieurs années là, pour essayer de la contrôler. On a également d'autres projets là, d'objectifs plus fauniques. Donc, on peut penser, entre autres, là, depuis 2019, qu'on mène un projet d'amélioration de l'habitat des poissons à statut précaire dans la zone Bécancour. Donc, plus spécifiquement, c'est dans notre secteur, puis qui est plus vers le fleuve, donc dans l'aval de la zone. Donc, on retrouve des occurrences de différents poissons menacés ou vulnérables. Donc, plus spécifiquement, le dard de sable et le fouille roche gris. Donc, on mène des projets. Donc, en 2019 et 2020, on a réalisé des pêches scientifiques pour essayer de confirmer ou de trouver des nouvelles occurrences de ces espèces-là dans nos cours d'eau. Donc, et par la suite, mais en ce moment, on réalise surtout des projets pour essayer d'améliorer l'habitat de ces poissons-là. Donc, une des principales menaces qui affecte l'habitat de ces poissons-là, c'est l'érosion des berges puis la part de sédiments qui détruit un peu l'habitat que ces poissons fréquentent-là. Tant soit le gravier ou des milieux plus rocheux, comme pour le fourrage gris, ou le dard de sable, comme son nom l'indique, il fréquente vraiment les dunes de sable ou les étendues sableuses dans les cours d'eau. Donc, la part de sédiments un peu en tout genre, puis les tout ça, ça perturbe ces habitats-là. Donc, on réalise des projets pour vraiment essayer de stabiliser les berges des cours d'eau et les tributaires que ces poissons-là fréquentent. Donc, ça peut passer par de la stabilisation avec des matelas de coco, ça peut passer avec de la végétalisation. Donc, comme Sandrine l'expliquait tout à l'heure, c'est un des très bons alliés qu'on a là, pour un peu le. La stabilisation des cours d'eau, avec les bandes riveraines, donc avec la végétation. Puis également, on a réalisé des petits projets là, de conservation pour les milieux boisés qui étaient retrouvés sur les rives de ces cours d'eau-là. On a des projets tant poissons par le passé qu'on a réalisé des aménagements pour la truite. En ce moment, on réalise des approches plus par espace de liberté, voire un peu des aménagements un petit peu plus soft, qu'on pourrait dire. On cherche vraiment à réaliser des projets un peu en tout genre. Là. Cette année, on a des projets dans les cartons pour des projets de bandes riveraines, par exemple pour la rivière Marguerite, qu'on attend des confirmations. On a des projets qu'on a des visées en fait pour des projets avec la tortue des bois. On a vraiment des projets très complexes, là, très variés, là, donc pour vraiment un peu viser à améliorer soit la qualité de l'eau, soit les habitats fauniques, des espèces qui fréquentent les cours d'eau, un peu tout ça. Là.
Oui, donc on a plein de belles choses qui s'en viennent, comme on peut voir, ou qui se trament en ce moment, en cours. Je pense que ça conclut bien là, qu'est-ce qui est le gros bec, c'est quoi nos projets actuellement. Premièrement, je remercie Emmanuel et Sandrine pour le temps qu'ils ont passé là, dans cet épisode-là. Puis pour conclure, je voulais parler un petit peu là, de qu'est-ce qui s'en vient avec le balado, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre, vous, en tant qu'auditeur, là, pour les prochains épisodes. Les prochains épisodes qui vont sortir au cours du mois de juin, vont être présentés là, dans le cadre du mois de l'eau. Le mois de l'eau, c'est une initiative qui est prévue dans le plan d'action 2018-2023 de la stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Puis le mois de l'eau, c'est le mois de juin. Donc, la thématique de cette année pour le mois de juin, c'est les lacs. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous avons décidé là, que les prochains épisodes vont être consacrés aux lacs qui sont présents sur notre territoire. Donc, on va discuter avec différentes associations du territoire pour parler des lacs et aussi de leurs projets là, en cours. Puis par la suite, une fois que le mois de l'eau va être terminé, là, vous allez encore entendre parler de nous de temps en temps. On va faire quelques épisodes là, pour présenter différents projets ou pour parler là, avec d'autres partenaires. Donc, c'est ce qui s'en vient là, pour le balado dans le futur. Donc, on vous remercie là, d'avoir été avec nous là, pour cet épisode, ce premier épisode, et on espère que vous serez là pour les prochains. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi, Chloé.
Merci beaucoup. Au revoir.